Bonjour. Heureusement que j'ai le Seigneur pour me présenter devant vous ce matin. Avec cette introduction. Mais c'est absolument vrai ce que tu dis. On compte sur la grâce et vous allez voir, je vais terminer par cela. Donc je suis David Rosset, l'heureux pasteur de cette communauté. Et puis effectivement, on a décidé en ce début d'année scolaire de nous intéresser à la transmission de la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aussi en tant que pasteur et en tant que personne, en tant que disciple du Christ. Alors ma première question c'est, je vais vous demander de nouveau faire la Landsgemeinde style, c'est-à-dire en levant la main, est-ce que pour vous, vous comptez sur l'Église pour transmettre la foi? Alors ceux qui sont d'accord peuvent le faire en levant la main. Et qu'est-ce qui ne, puis on ne va pas regarder, hein, je ne prends pas les notes, j'ai quelques indicateurs. Qu'est-ce qui pense que l'Église n'est pas le lieu pour, le plus approprié pour transmettre la foi? Quelques courageux, c'est beau. Ça fait plaisir, il y a une certaine liberté de vote et de parole dans cette Église, même à main levée, ça va bien. Parce qu'effectivement, je trouve que ce n'est pas une question si facile que ça, et puis ce n'est pas une réponse si facile que ça à donner. Parce que je me suis dit, bon, ben, dès que j'ai pris ce sujet, pour moi, ça me paraissait évident. Oui, l'Église est le lieu par excellence pour transmettre la foi. Puis après, on réfléchit un tout petit peu, puis on se dit, mais punaise, tout ce que j'entends comme histoire dans l'Église, aussi de blessures, de choses qui ne se sont pas très bien passées, de coups par derrière, et tout, je me suis dit, alors est-ce que vraiment l'Église, c'est le meilleur lieu pour transmettre la foi, alors qu'on essaye de transmettre un message positif d'amour? Et puis qu'on entend quand même parfois, et je ne vous rassure pas ici évidemment, des histoires de ce type-là qui peuvent arriver. Et finalement, la question n'est pas si simple que ça à répondre. Elle n'est pas si simple que ça à répondre, et malgré tout, je pense que l'Église est le lieu que Dieu a choisi pour transmettre la foi. Et puis ça, ça fait toute la différence en fait. Ce n'est pas moi qui ai choisi en tant que pasteur que c'était le lieu par excellence pour transmettre la foi. C'est simplement Dieu qui a voulu installer cet espace de rencontre, de communauté, pour transmettre la foi en Christ. Alors on va méditer une partie de la lettre aux Corinthiens. Vous avez vu, il n'y a rien derrière l'écran pour une fois ce matin, donc je vous autorise à sortir vos téléphones, vos bibles papier, peut-être même que vous les avez sortis. Il y a une application qui s'appelle Holy Bible dessus, vous pouvez la trouver, puis sinon vous m'écoutez sagement, et surtout vous écoutez la parole. On va lire les 7 premiers versets du chapitre 15 de 1 Corinthiens. Chapitre 15 de 1 Corinthiens. « Je vous confirme, mes frères et sœurs, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue et dans laquelle vous vous tenez, et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut, si vous la retenez dans les termes où je vous l'ai annoncée. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venu à la foi. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Je vous ai transmis avant tout ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, ou Pierre, puis aux 12, et ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il n'est pas apparu à Jacques et à tous les apôtres, et après eux tous, il m'est apparu à moi, Paul, à moi aussi comme un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été inutile. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas à moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, telle est notre proclamation et telle est la foi à laquelle vous êtes venus. Et l'Assemblée de Dieu dit « Amen ». appelés à transmettre ce que nous avons reçu. On ne crée pas, en tant que chrétien, notre propre structure. On n'est pas des disciples start-up. On n'est pas des disciples chefs d'entreprise. On reçoit quelque chose et on redonne de la meilleure manière possible, de la manière la plus adaptée, de la manière la plus cool, de la manière la plus rigolote, tout ce que vous voulez, ce que l'on a reçu de quelqu'un d'autre. Et le message qui nous est donné, déjà là, détermine beaucoup de choses sur comment nous allons transmettre la foi en Église. Ça nous est donné par l'action du Christ. C'est lui qui commence tout, qui impulse le truc. Et ensuite, nous sommes simplement dans une succession de prises de relais. Ce n'est pas nous qui décidons quoi faire, comment faire. Le chrétien, avant tout, pour transmettre la foi en Église, il se met à l'écoute de Dieu et il prend ces impulsions qui sont données par le Christ. Et ce rôle-là, l'Église, elle doit en être bien consciente. C'est ce rôle-là qui n'a pas changé depuis les paroles de l'apôtre Paul il y a plus de 2000 ans. Il n'y a rien qu'à changer à ce niveau-là. C'est toujours cette même impulsion qui vient de Christ. Et je crois que ce qu'on essaye de vivre le dimanche matin, ce qu'on essaye de vivre dans nos groupes de maison, ce qu'on essaye de vivre quand on partage la parole, c'est ça en premier lieu. C'est laisser un espace pour que le Christ règne. Pas pour que moi je règne avec mes idées, pas pour que moi je règne avec mes programmes, mais pour que le Christ règne. Et moi, ce que j'ai à faire, c'est me mettre à son écoute. Écoutez cela. Et c'est pour ça que l'Église est le lieu de la transmission de la foi, malgré tout, et que nous avons à l'assumer. Et Paul, finalement, si on réfléchit un peu à sa vie, c'est un excellent exemple de cette transmission de la foi en Église. Mais a priori, on pourrait un peu penser le contraire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'apôtre Paul avec Dieu. On en a quelques bribes dans le passage que je viens de vous lire qui nous dit que, pendant très longtemps, cet homme, il a décidé non pas de servir le Seigneur et d'écouter Dieu, mais il a décidé de persécuter l'Église de Dieu. C'était sa raison d'être, sa raison de vivre, et il était hyper zélé pour ça. C'était ce qu'on appellerait maintenant un fanatique. Un fanatique de Dieu, mais en n'ayant pas compris qui est vraiment Dieu. Ça, ça arrive encore de nos jours, hein, malheureusement. Et tout à coup, cet homme, il entreprend un voyage pour aller persécuter une église qui était un peu loin de chez lui. Lui, il habitait vers Jérusalem, il part pour aller dans une autre ville, à Damas, aussi des villes qu'on entend souvent parler. Et en chemin, badaboum, tout s'effondre, son monde s'effondre, parce qu'il reçoit une révélation spéciale de Dieu. Une révélation que pour lui. Il n'a rien demandé, il n'était pas dans une église, il n'était pas en train de prier, il n'a pas invoqué l'action de l'Esprit-Saint. Et pourtant, bim, il reçoit une révélation. C'est moi le Seigneur ton Dieu. Ce texte, vous le trouvez, cette histoire, vous la trouvez dans la Bible, au chapitre 9 des Actes des Apôtres. Et là, on peut se dire, la transmission de la foi, elle se fait en tout cas pas dans l'Église. Ah, elle se fait dans la relation qu'on a personnellement avec Dieu, parce que Dieu, il nous parle de manière individuelle, son Esprit Saint, il n'a pas besoin de s'encombrer des structures ecclésiales, des institutions, et tout et tout. Puis je pense que vous êtes d'accord avec ça. Pas forcément. Mais c'est un discours qui m'arrive d'entendre. C'est un discours qui m'arrive d'entendre même régulièrement. Comme si on voulait mettre de côté cette Église qui peut être encombrante, pour aller vers une espèce de pureté de la révélation directement entre Dieu et moi, sans passer par les autres. Le truc, c'est qu'il y a une suite dans l'histoire de cet apôtre Paul qui écrit cette lettre ensuite aux Corinthiens. Cet apôtre Paul, il est un peu démuni parce que voilà qu'il se retrouve complètement aveugle, la lumière a été trop forte, il ne voit plus rien. Il doit compter déjà là sur ses compagnons de voyage, pour l'amener quand même là où il doit aller, c'est-à-dire à Damas. Alors ses compagnons de voyage, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qui s'est passé parce qu'ils ont vu la chose, mais ils n'ont absolument pas compris ce qui se passait parce qu'ils n'ont pas eu cette révélation individuelle de la part du Seigneur. Malgré tout, ben, ils ne pouvaient pas le laisser là au milieu de nulle part. Ils le prennent avec et Dieu a préparé ce qui allait se passer par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu au même moment où il a appelé l'apôtre Paul ? Il appelait un autre homme qui s'appelle Ananias. Ananias, il est disciple de Christ, c'est tout ce qu'on sait sur son pédigree. Il est disciple de Christ et il habite à Damas. Et à cet endroit-là, dans sa maison, il reçoit la visite de Dieu et Ananias lui répond simplement par ces mots, « Seigneur, je suis là. » Il n'aurait peut-être pas dû les dire. « Seigneur, je suis là. » Et qu'est-ce qu'il va devoir faire, cet Ananias ? Il va devoir ouvrir la porte de sa maison à un homme qu'il connaît déjà, mais simplement de réputation. Et vous savez la réputation qu'il avait, ce Paul, quand il allait arriver dans cette maison chez Ananias. Ce n'était pas une réputation qui fait qu'on ouvre sa porte, le sourire aux lèvres, en se disant qu'on est fier d'accueillir quelqu'un. Il a ouvert sa porte pour accueillir le persécuteur de l'Église, celui qui a mis à mort d'autres chrétiens comme lui. Il ouvre sa porte parce qu'il a reçu la révélation de Dieu qu'il devait le faire. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est simplement mis à l'écoute de Dieu. Et dans ce cadre-là, dans sa maison, il va accueillir Paul et lui donner les premiers rudiments de la véritable foi en Dieu. Et là, je trouve extraordinaire de voir, dès le début de l'histoire de Paul, cet élargissement, finalement, à l'Église. Parce que dans leur maison, dans la maison d'Ananias, pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont simplement partagé la foi à deux ou trois. Il y a ce verset qu'on aime bien dire, « Lorsque deux ou trois sont assemblés en mon nom, le Seigneur est au milieu d'eux », il y a quelque chose qui se transmet de la foi. Même que Paul a eu cette révélation que peut-être beaucoup d'entre nous rêverions d'avoir comme révélation pour se dire « là, je suis sûr que j'ai la foi », l'étape suivante et immédiatement après, c'est d'ouvrir à d'autres pour que la véritable foi puisse être transmise. Dieu, dans sa volonté, et là c'est absolument clair, il appelle Paul de manière individuelle, il appelle Ananias de manière individuelle, dans quel but ? Pour qu'ils se mettent ensemble et qu'ils partagent entre eux la parole. Et là, on a la preuve que ça vient de Dieu et que c'est sa volonté simplement qu'on transmette la foi dans l'Église, qu'on transmette la foi autour de nous, avec ceux qui nous entourent. Et ce n'est pas une question de dimanche matin ou de mercredi soir ou de je ne sais pas quoi. C'est une question d'être à deux ou trois pour partager la parole. C'est rien d'autre que ça, finalement, cette transmission de la foi. Et je ne sais pas si vous connaissez la fin de l'histoire, mais c'est assez intéressant de voir qu'à la fin de son séjour chez Ananias, qu'est-ce qu'il fait, Paul ? Il reçoit le baptême. Il reçoit le baptême qui lui est simplement là, offert par Ananias suite à cette transmission de la foi qui s'est faite sur plusieurs semaines. Appelé à transmettre ce que nous avons reçu. Appelé à transmettre comme nous aussi ce que nous avons reçu de plus loin. L'Église, c'est vraiment ça, une suite de témoins. Là, il y a Paul, et ensuite il y a Ananias, puis qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Paul, il va créer une multitude d'Églises. Mais ça a commencé là, par cette rencontre où ça s'est ouvert juste entre les deux, avec Dieu au milieu. Et nous, je crois qu'on est toujours, et puis là, on doit assumer ce que Marie-Hélène a dit, hein. Il n'y a pas que moi, on est toujours dans cette suite de témoins-là. Et dans le texte qu'on a lu ce matin, là, dans Aux Corinthiens, c'est assez impressionnant de voir qu'il est apparu à Céphas, puis aux douze, il a omis, en parenthèse, les femmes, hein, à ce moment-là, parce qu'il a aussi apparu quand même à Marie et toutes les femmes, mais bon, on ne peut faire de polémique, mais il a aussi apparu aux femmes, et ensuite à plus de 500 frères. Ça s'élargit, et c'est la volonté de Dieu que ça s'élargisse. Et nous, au 21e siècle, ici, en ce 29 août 2021 à Nyon, on est appelé à toujours jouer le jeu de cet élargissement. Nous sommes toujours ces témoins qui avons reçu d'autres et qui retransmettons à d'autres. Et si je devrais donner une caractéristique positive de ce qu'est l'Église, pour moi, c'est que dans l'Église, on rencontre des personnes magnifiques. On rencontre des personnes magnifiques qui nous impactent sur notre chemin de foi. Moi, je peux dire dans ma vie que je suis profondément reconnaissant des personnes qui étaient plus âgées que moi, souvent, qui m'ont amené petit à petit sur ce chemin de foi. Et puis si j'essaie de découvrir les caractéristiques que j'ai retrouvées en elle, c'est que dès mon plus jeune âge, j'ai été considéré comme étant un être humain à part entière. Ça a l'air tout con de dire ça, mais c'est assez énorme pour forger son identité. Qu'on s'est rendu attentif à mes besoins, qu'on m'a écouté, qu'on a écouté mes questions, qu'on a essayé de me faire avancer petit à petit en me donnant une place et en m'aimant, tout simplement. Et ça, je crois que j'en ai rencontré plusieurs dans l'Église qui m'ont amené petit à petit sur ce chemin de foi. Et pour moi, une des caractéristiques de l'Église, comme cette suite de témoins, c'est vraiment cette possibilité qu'il nous a offerte, cette grâce qu'il nous a offerte dans notre communauté et dans les autres communautés chrétiennes, de rencontrer de belles personnes. Et je crois qu'il y a pas mal de flambeaux ce matin. Je suis sûr que dans votre groupe, dans votre week-end que vous êtes en train de vivre, vous vous rendez compte que vous rencontrez des belles personnes qui vous font avancer, vous aussi sur le chemin de la foi, et qui font avancer les enfants qui vous sont confiés chaque semaine. Là aussi, vous avez un rôle à jouer, vous vous appelez Flambeau, pas Église, mais vous faites partie de cette Église au sens large. Alors soyez bénis et inspirés dans votre rôle. Et puis là où on élargit le cercle, on se rend bien compte que toutes et tous, on a un rôle à jouer. Toutes et tous, on a ce témoin à prendre. On n'est pas simplement comme aux Jeux Olympiques aux 4 fois 100 mètres. Là, on est peut-être aux 120 fois 100 mètres, j'en sais rien. Où on se passe petit à petit le relais. Il n'y a pas simplement une petite élite qui prend le relais, qui va, puis devant toutes les caméras du monde, qui court le plus vite possible. Je crois que Dieu, dans sa volonté, a également voulu que chacune, chacun, puissions prendre un relais, et on n'est pas en train de courir le 4x100 ou le 4x400. On est en train de courir le 120 fois, je ne sais pas combien de kilomètres. Et du coup, c'est aussi pour nous, en Église, un apprentissage de la vie communautaire. Et ça, je trouve que c'est une deuxième caractéristique qui me plaît beaucoup, et particulièrement dans notre époque. Une époque qui est marquée quand même par l'individu, une époque qui est marquée par le soin qu'on a appelé à prendre de soi, et puis de soi surtout. Dans l'Église, on apprend à prendre soin les uns des autres. On apprend que l'autre, il peut aussi m'apporter quelque chose, comme je peux lui apporter quelque chose. On découvre cette richesse, on dit souvent qu'à la frate, on aime bien la diversité, mais ce n'est pas un slogan juste comme ça, creux, pour dire « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Je crois que c'est une réalité profonde où quand je dis qu'on peut rencontrer dans l'Église de belles personnes, c'est des personnes qui vont me marquer, chacune, chacun, avec leur personnalité différente et d'après moi, inspirée par Dieu. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité qu'on essaye de vivre et que nous puissions assumer notre rôle où j'apporte quelque chose et ce rôle où je reçois quelque chose. Et pour moi, je pense que l'Église, un de mes buts, c'est de pouvoir créer ce cadre favorable où il y a cette confiance nécessaire, où je suis assez en confiance pour dire, ben, moi, je vais apporter quelque chose avec qui je suis, et assez en confiance aussi pour dire, ben, là, j'accueille ce que toi, ou toi, ou toi, tu as à me dire, notamment pour me faire grandir sur le chemin de la foi. Et ça, c'est une subtile alchimie. Hein. On ne le fait pas comme ça en claquant des doigts, mais c'est une subtile alchimie qui nous met en avant, en tout cas moi qui me pousse en avant, qui me fait vivre simplement ces beautés de la communauté, ces formes d'aller-retour entre ce que je peux apporter et ce que je peux recevoir. Avoir l'assurance nécessaire pour dire « oui, je suis capable d'apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un » et « oui, je suis capable de recevoir ce que quelqu'un d'autre va m'apporter ». Écoute et parole mises ensemble. Et finalement, si on élargit encore un tout petit peu, puis je vais terminer avec ça, on se rend compte que l'Église, elle est dans ce cadre favorable voulu par Dieu, qui est celui d'une alliance. Et ce n'est pas une alliance sur laquelle Dieu va revenir. C'est une alliance qu'il a décidé de faire avec nous, chrétiennes et chrétiens, avec nous les disciples du Christ, qui lui a coûté le maximum, qui lui a coûté le fait de devoir offrir son Fils sur la croix. On l'a chanté tout à l'heure, on va s'en souvenir encore. Ça lui a coûté le maximum. Il ne va pas revenir dessus. Jésus a dit sur la croix, tout a été accompli, pas seulement pour moi, mais aussi pour l'Église, les chrétiens réunis, parce qu'il va parvenir sur l'alliance qu'il a faite avec nous. Donc si je peux prendre la parole avec assurance ce matin, bien que je devrais trembler, on peut le faire les deux en même temps, c'est parce que je suis sûr de cette alliance. Et je crois que chacune, chacun dans notre rôle de transmetteur de la foi en Église, on doit pouvoir se tenir, comme nous dit le texte de Corinthiens, ferme dans cette alliance que Dieu a conclu avec nous, et sur laquelle, lui, il va parvenir. Nous, je pense qu'on peut s'en éloigner, mais lui, il va parvenir. Alors, mes frères et sœurs, allons-y confiants, sûrs de cette alliance, comme transmetteurs de foi, de vie et d'amour. Amen.